Et bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui vous rappellera ou vous apprendra pour les nouveaux venus que 24 notes secondes est une, ou les nouvelles venues, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis plus d'un siècle maintenant. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons explorer très rapidement, en moins de 30 minutes, un immense continent, l'Australie, puisque nous allons nous intéresser à quelques films tournés en Australie, ou en tout cas qui sont censés se passer en Australie avec des réalisateurs australiens, des acteurs australiens, des kangourous, évidemment, des crocodiles, enfin tout ce qu'il faut pour faire les clichés de base sur l'Australie. Il n'y aura qu'un truc qui manquera, et je m'en excuse d'avance, ce sont les aborigènes. Enfin, les aborigènes, on les oublie, ils étaient là avant, après c'est les colons blancs venus des pénitenciers qui les ont exterminés, ma foi. L'histoire est relativement classique. Et bah tiens, en parlant d'exterminer, on va commencer en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1979 par le dénommé George Miller. Alors George Miller, le gars a été médecin avant d'être cinéaste à succès, et à l'occasion de son activité, eh bien, il avait eu l'occasion de voir beaucoup d'accidentés de la route dans l'hôpital où il exerçait, et c'est ce qui un peu lui suggéra le thème de son film. Alors vous l'avez sans doute deviné si le nom de George Miller ne vous est pas inconnu. Le film, il s'appelle Mad Max et il raconte l'histoire d'un monde retourné à la barbarie où, sur de grandes routes interurbaines, des gangs de motards nomades sans foi ni loi affrontent une police super équipée. Enfin, ça, c'est pas vraiment le futur, si. Quelque part dans les banlieues nord de Paris, c'est plutôt le présent. Allez, je galège, évidemment. Dans le rôle principal de Mad Max, alias, je vous l'apprends peut-être, Max Rokatansky. C'est son vrai nom, je ne sais pas, ça ne fait pas très australien, mais c'est son vrai nom. Eh bien, dans le rôle principal du policier suréquipé, on retrouve Mel Gibson, Mel Gibson, qui évidemment trouva à cette occasion-là le premier rôle de sa vie, qui lui valut ensuite une prestigieuse carrière et qui valut aussi une suite, évidemment, puisqu'on vit Mad Max 2 et ensuite on vit Mad Max 3, encore plus connu, avec une chanson de Tina Turner que personne n'a oublié, une musique de Maurice Jarre qui, elle, était plutôt oubliable. Et puis, heureuse surprise, il y a quelques années, je ne sais plus trop quand, George Miller est revenu derrière la caméra pour nous tourner un Mad Max Fury Road avec Charlize Theron qui était absolument jouissif pour ceux qui aiment les voitures et même pour ceux comme moi qui ne les aiment pas. Allez, on écoute un extrait de la bande originale de Mad Max. La musique, elle est signée Brian May. Vroom, dans 24 secondes. Voilà, un extrait de la bande originale de Mad Max le premier, un film tourné en 1979 par George Miller, une musique de Brian May. Alors on sent que le gars, il n'avait pas beaucoup de moyens, hein, pas beaucoup d'instruments, des petites orchestrations. Évidemment, c'était un premier film et personne ne s'attendait à ce qu'il ait un succès aussi considérable. Brian May ensuite fit bien d'autres choses, à la fois... en matière de musique de film et ailleurs. Et puis George Miller, eh bien aussi, on va le retrouver. Il poursuivit une carrière, disons, contrastée. Notre émission sur l'Australie se poursuit. Et on va passer à un autre personnage emblématique de l'Australie, le dénommé Crocodile Dundee, qui en 1986 sera l'objet principal d'un film de Peter Fyman. Alors Crocodile Dundee, ben, comme son nom l'indique, c'est un ancien chasseur de crocodiles, une espèce d'aventurier un peu rude, un peu brut de décoffrage, brut de pomme, dirait-on chez nous, et qui évidemment va trouver l'amour avec une jeune américaine qui est tout son contraire. Alors le scénario façon buddy movie est tout à fait classique, mais c'est évidemment le personnage de Crocodile Dundee interprété par Paul Hogan qui emporte l'adhésion. Paul Hogan qui fut ouvrier en bâtiment, routier, videur, ça se sent un peu dans le film qu'il a été videur le gars, et qui à partir de 1972 jusqu'aux années 80 fut la vedette d'un show télévisé italien, australien, duquel j'ignore tout, mais qui rencontra un grand succès qui lui permit d'enchaîner sur ce film qui lui-même rencontra un grand succès. Il y eut le 2 je crois, voire le 3, je ne sais plus trop. À côté de Paul Hogan, il y a la délicieuse Linda Kozlowski. Alors, personne n'aura oublié son derrière dans une scène absolument fameuse. Crocodile Dundee lui-même n'en revient pas. La musique de ce film est signée de Peter Best. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. On écoute un extrait de la bande originale. Crocodile Dundee dans 24 notes secondes. Un extrait donc de la bande originale de Crocodile Dundee, un film tourné en 1986 avec Paul Hogan dans le rôle principal, Paul Hogan au scénario. Presque, on imagine Paul Hogan derrière la caméra, ma foi, c'était plutôt sympathique. On voyait d'abord Crocodile Dundee initier une jeune américaine à la vie un peu rude dans la brousse et ensuite évidemment la jeune américaine initier Crocodile Dundee à la vie à New York. Il y a une scène assez cocasse où on le voit prendre de la cocaïne en pensant qu'il s'agit d'un remède contre la grippe. Alors, je ne sais pas si ça marche contre la grippe aussi, la cocaïne. Bref, on va rester donc en Australie. On va passer, alors là, un film tout à fait différent. Je ne l'ai pas fait exprès, mais enfin, c'est assez rigolo. Le film, il s'appelle Priscilla, folle du désert, un film de Stephen Elliott tourné en 1994. Alors, l'argument est relativement improbable, mais c'est ça aussi qui fait le charme des films, et en tout cas qui permet qu'ils aient un succès inattendu, ce qui fut le cas de Priscilla, Queen of the Desert. C'est l'histoire d'une troupe de travestis qui parcourt l'Australie profonde pour y jouer son spectacle. Alors évidemment, un peu comme Crocodile Dundee jouait beaucoup sur des contrastes entre la vie rude des colons australiens, pardon, ils ne sont plus colons maintenant, ils sont habités chez eux puisqu'ils ont chassé les aborigènes, la vie quotidienne des Australiens avec une troupe de travestis, comment dire, un peu sophistiquée, comment dire, un peu excentrique, comment dire, un peu complètement déjantée. Ma foi, le résultat a été tout à fait jouissif. Dans les rôles principaux, on retrouvait Guy Pearce, Hugo Weaving et surtout notre cher Terrence Stamp, alors qui était vraiment charismatique dans ce film. Et puis l'un des attraits et non les moindres de ce film, eh bien c'est la musique. Sauf erreur de ma part, d'ailleurs, on en a fait une comédie musicale après, parce que la musique, tout simplement, c'est ça.
Time on your life.
Ai-je besoin de préciser qu'il s'agit d'ABBA ? Ai-je besoin de préciser qu'il s'agit de Dancing Queen, la meilleure chanson de tous les temps ? Un extrait de la bande originale de Priscilla, Folle du désert, un film de Stephen Elliott tourné en 1994. Alors le désert, c'est le fameux bush australien dont l'immensité défie toute description, surtout pour ceux qui n'y sont pas allés comme moi. Et eh bien, dans ce désert, il y a une espèce d'immense bus, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, avec plein de travestis dedans qui voyagent et qui font leur spectacle. Et ma foi, c'est un de ces films, un feel-good movie comme on dit, un de ces films très très réjouissants, à la fois drôle, tendre et acide et ironique, auquel la musique d'ABBA apporte évidemment beaucoup, voire tout, puisque ABBA, c'est tout. Voilà, juste un petit mot sur ABBA. Peut-être qu'il y en a une émission sur ABBA, oui, mais par contre, ça n'a rien à réclamer. Bon, bref, on en parlera à un autre moment que à l'antenne. Là, nous sommes en direct, donc on enchaîne avec à nouveau un film qui se passe en Australie. À nouveau un scénario des plus improbables. Peut-être que les Australiens ont aussi cette veine poétique et un peu surréaliste. Le film, il s'appelle Babe, le cochon devenu berger. Bah oui, c'est comme ça. Et le scénario, la réalisation de ce film est signée de Chris Noonan. Et le scénario, eh bien, il est co-signé de Chris Noonan et de George Miller, notre fameux George Miller de Mad Max de tout à l'heure, mais dans un genre tout à fait différent, puisque Babe, le cochon devenu berger, comme son titre l'indique, même si ça vous paraît improbable, c'est l'histoire d'un petit cochon qui est promis, comme beaucoup de petits cochons, à finir quelque part en Bretagne dans du papier lyophilisé, mais qui a la faculté de parler, de convaincre les autres animaux de la ferme, Ficelle, la chienne, Ferdinand, le canard, Rex, le chien, Ma, la brebis, et même Duchesse, la chatte, la faculté de les convaincre qu'il est intelligent et qu'en fait il peut devenir l'assistant du berger et qu'il peut même devenir berger à la place du berger. Oui, je sais, ça paraît totalement improbable. Le film ne l'était pas moins, mais je vous apprends, si vous l'ignorez, que ce film reçut 5 nominations aux Oscars, à ma souvenance. Voilà, 7 nominations aux Oscars, il faut quand même le croire, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Il faut croire que c'était quand même pas si nul. Par contre, il n'obtint que l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il y avait même une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. On ne sait pas si c'est Babe qui était nommé ou un autre cochonnet, puisque en l'espèce, il y eut 48 porcelets utilisés pendant le film. Je pense que tous ces pauvres animaux ne sont plus là maintenant pour en parler. Ils sont allés en Bretagne quand même, il ne faut pas rigoler. Bref, un film tout à fait étonnant, mais qui rencontra aussi étonnant, là encore, que ça paraisse un large succès critique et commercial. Comme souvent, il fut suivi d'un deuxième opus, cette fois vraiment signé par George Miller. Quand je vous disais que le gars avait eu une carrière contrastée entre Mad Max et Babe, ça s'appelait Babe, le cochon dans la ville. Évidemment, après, il va à la ville, c'est normal. Ce fut un film 10 fois plus cher et qui rapporta, pour le faire simple, 10 fois moins d'argent. Pourtant, c'était pas si mal. Je vous engage à le voir. Les effets spéciaux étaient tout à fait extraordinaires. Bon, enfin, il faut supporter les cochons qui parlent. Il y a des gens, ça leur dit pas. Allez, on écoute un extrait de la bande originale. Elle était co-signée dans des proportions que j'ignore par Nigel Westlake et notre bien connu James Horner. Babe, dans 24 notes secondes. Non, je ne vais pas vous imiter le cochon.
Hey! Psst. What? You look like an intelligent, sophisticated, discerning young fella.
Who, me?
Yeah, follow me. Oh boy, are you in for some fun?
What are we doing? Where are we going?
And a one, and a two, and a three. Hit it!
Thank you.
Ah ben ça aurait été dommage de se passer de ça, non? Un extrait de la bande originale de Babe, le cochon devenu berger. Alors là, vraiment, on est dans la quatrième, la sixième dimension, ce que vous voulez, un film de Chris Noonan, avec co-signé au scénario par George Miller, un film tourné en 1995, alors qui est basé sur un livre. Le livre, il s'appelle The Sheep Pig, c'est-à-dire le mouton cochon, ou je ne sais pas, parce que les Anglais distinguent sheep quand c'est vivant et mutton quand c'est mort, donc je ne sais pas trop. Bref, déjà très très improbable, le livre paru en 1983, mais qui avait dû connaître un certain succès. Le film, ben écoutez, là je pense que l'extrait qu'on a entendu de la bande originale avec Babe lui-même en train de chanter, je pense que vous l'avez compris, eh bien on dit assez. Il faut dire qu'il y avait aussi dans la musique de ce film des extraits de symphonie de Camille Saint-Saëns. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais bref, je vous le dis, on était ailleurs et on va y rester, puisqu'on va terminer en écoutant un extrait de la bande originale d'Australia, une émission sur l'Australie qui se termine par un film qui s'appelle Australia, évidemment. Alors, le réalisateur de ce film, Baz Luhrmann, voulait en faire l'OTAN n'emporte le vent australien. On va dire qu'il a quand même à moitié réussi. Le film raconte l'histoire des amours de Nicole Kidman et Hugh Jackman. Donc, je vous rappelle que ce sont des Australiens pur sucre, l'une comme l'autre. C'est plutôt bienvenu. Il y avait un peu trop d'effets numériques à mon goût, si je me souviens bien. Et en 2008, ils étaient loin d'être aussi perfectionnés que maintenant. Mais ma foi, le film ne manquait pas de souffle. Et puis, il avait le mérite, contrairement à ce que j'ai dit au départ, d'évoquer la vie plutôt triste des aborigènes, dont il faut bien dire qu'ils ont été largement persécutés par les colons australiens. Et on y retrouvait notamment ce cher David Goulpilil, qui avait été le héros aborigène des premiers films de Peter Weir. Alors voilà un réalisateur australien qu'on n'a pas évoqué dans cette émission, mais lui, il lui faut une émission à lui tout seul. Bref, le résultat était plutôt pas malvenu. De toute façon, un film avec Nicole Kidman ne peut pas être franchement mauvais. Si ? Ah ben si, peut-être. Voilà. Bon, on écoute un extrait de la bande originale de ce film pour conclure. Elle est signée, alors je ne sais plus trop, mais je vais le retrouver tout de suite, de David Hirschfelder, pas très australien comme nom, dans 24 notes secondes. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye.